Je vais vous parler aujourd'hui des papes et de Notre-Dame des Victoires. De tout temps, les papes se sont fait remarquer par la dévotion envers la Sainte Vierge. Ils l'ont prouvé par les faveurs spirituelles et temporelles qu'ils ont accordées aux sanctuaires privilégiés. On peut s'en convaincre par la prieuse vénération qu'ils ont témoignée pour les sanctuaires de Lorette et de Savone et tant d'autres sanctuaires répandus dans le monde entier. Les faveurs signalées, obtenues par l'intercession de Marie sous le titre de Notre-Dame des Victoires, ne pouvaient manquer d'attirer leur attention. Toutefois, nous ne trouvons rien de spécial dans la période qui va de la fondation de l'Église jusqu'à sa consécration au cœur immaculé de Marie. Au XVIIe siècle, le pape Alexandre VII, voulant donner son approbation à l'établissement de la confrérie de Notre-Dame des Sept Douleurs, parrainée par la reine Anne d'Autriche, maman de Louis XIV, qui voulait honorer les douleurs de la Sainte Vierge. Elle avait choisi Notre-Dame des Victoires pour en faire le siège de la confrérie. Ayant soumis son projet au frère Fiacre, celui-ci prit l'avis de ses supérieurs et il fut résolu de demander au pape l'érection canonique de la confrérie de Notre-Dame des Sept Douleurs. Alexandre VII accorda un bref avec indulgence le 26 mars 1656, mais cependant, il n'y a pas eu d'érection canonique. En 1804, le pape Pie VII vint à Paris pour le couronnement de Napoléon. Selon l'école des Chartes, il se serait rendu à Notre-Dame des Victoires car l'église avait été partiellement réouverte au culte. N'ayant pas de preuves tangibles, ce n'est qu'une hypothèse que j'émets pour l'instant. Les deux papes qui vont suivre ont donné des faveurs insignes à Notre-Dame des Victoires, toujours grâce à l'archiconfrérie. En premier, le pape Grégoire XVI, qui érigea la confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie, fondée par l'abbé Desgenettes en 1836, en archiconfrérie universelle par un bref apostolique le 24 avril 1838. À cette première faveur, le pape en nous jetait d'autres. Le nombre des indulgences accordées était considérable. Les progrès merveilleux de l'archiconfrérie, son extension prodigieuse, firent naître à l'abbé Desgenettes le désir d'aller à Rome pour y puiser de nouvelles forces, mais aussi de témoigner au Saint-Père de sa reconnaissance. Il accomplit ce voyage en 1842. Écoutons le père Desgenettes. C'était un dimanche de juillet 1842. Nous allions, monsieur l'abbé Ratisbonne et moi, rendre une dernière visite au souverain pontife et le remercier des faveurs insignes dont il avait daigné combler notre association naissante. Le Saint-Père nous reçut avec une bonté ineffable. Il nous entretint de Paris, de la France et de l'archiconfrérie. Sur le point de quitter Grégoire XVI, nous nous prosternâmes pour recevoir sa bénédiction. Je la demandai la tête inclinée pour notre œuvre de prédilection. De sa main gauche, le Saint-Père me releva la tête avec bonté, et pendant qu'il nous bénissait, j'entendis sortir de sa bouche ces paroles que je voudrais graver en lettres d'or. Vous me demandez ma bénédiction pour l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. L'archiconfrérie, je la bénis, oh, je la bénis de tout mon cœur. Dites-le bien à tous vos associés. Je suis très reconnaissant envers elle de tout le bien qu'elle fait en France et dans toute l'Église. Et chaque fois que le Saint-Père prononçait ces mots « Je la bénis », il traçait sur nous le signe de la croix. Grégoire XVI, comme nous le constatons, aimait infiniment l'archiconfrérie et faisait des vœux pour sa prospérité. Il disait également à un prélat qui s'entretenait avec lui des progrès de l'archiconfrérie « Je voudrais qu'il y eût dans toutes les églises de la catholicité une confrérie du Saint-Cœur de Marie » pour la conversion des pécheurs. En 1843, il fit présent des reliques de Sainte Aurélie, jeune martyre romaine. Vous les déposerez, ajouta le pape en signant l'acte de donation dans le tombeau de l'autel de l'archiconfrérie. Les reliques sont toujours présentes à ce jour. En 1844, Grégoire XVI accorda une indulgence plénière lors de la fête de l'archiconfrérie, qui est devenue depuis la fête patronale de Notre-Dame des Victoires à la date du 16 janvier. Puis il accorda 500 jours d'indulgence à tous les fidèles qui assisteront à l'office de l'archiconfrérie dans les églises ou chapelles où elle sera canoniquement érigée. Successeur de Grégoire XVI, le pape Pie IX, qui fut proclamé bienheureux, témoigna de la même affection envers Notre-Dame des Victoires. C'est à elle qu'il s'adressa d'abord pour demander à Dieu, par son intercession, de porter dignement la triple couronne, la fameuse tiare que autrefois les papes portaient. Il réclama aussi en sa faveur les prières des confrères du cœur de Marie afin de payer à Notre-Dame des Victoires son tribut d'hommage et de reconnaissance. Il envoya le 7 juillet 1847 un rescrit par lequel il fait participer Notre-Dame des Victoires à l'indulgence de la portioncule qui est liée à saint François d'Assise. Le 19 décembre 1847, il adressa au directeur de l'archiconfrérie, l'abbé Desgenettes, une lettre dans laquelle il le félicitait de l'heureuse diffusion de l'archiconfrérie. Cette lettre était accompagnée de nombreuses faveurs. Il accorda à Notre-Dame des Victoires de Paris et à toutes les églises qui portent ce vocable une indulgence plénière lors de la fête patronale qui, à l'époque, avait lieu le 4e dimanche d'octobre. Le pape accorda également une indulgence de 200 jours à tous les fidèles chaque fois qu'ils visiteraient Notre-Dame des Victoires, puis une indulgence plénière à gagner par la communion faite le jour de la fête de Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste qu'il donna à l'archiconfrérie comme patron secondaire. Un jour, Pie IX recevait Monseigneur Monnet, évêque de Pella. Pella se situe en Grèce. Le Saint-Père lui demanda avant tout s'il avait eu le soin d'établir l'archiconfrérie dans son diocèse, et sur la réponse affirmative du prélat, le pape lui répondit les larmes aux yeux: l'archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie est l'œuvre de Dieu. C'est une pensée du ciel qui l'a produite sur la terre. Elle sera la ressource de l'Église. J'en arrive au jour du couronnement de la statue de Notre-Dame des Victoires, le 9 juillet 1853. Lorsque ce couronnement fut proposé au chapitre de Saint-Pierre du Vatican, le Saint-Père ne se contenta pas d'applaudir à cette élection, il voulut concourir à l'éclat des couronnes. C'est à sa munificence, imitée par le cardinal Antonelli, que sont dues la richesse et la perfection des joyaux qui décorèrent les statues. Pour le pape, cette offrande était le signe de sa reconnaissance et de sa bienveillance envers le peuple français. Son geste avait également une connotation politique. En février 1848, une révolution chassait Louis-Philippe, roi des Français. D'autres pays européens se soulevèrent et la péninsule italienne ne fut pas épargnée. Divers États furent touchés par ce mouvement libéral et républicain appelé Risorgimento, qui veut dire reconnaissance, renaissance en français. La République fut proclamée à Rome en janvier 1849 et le pape s'enfuit à Gaète. De son exil, il adressa un appel aux puissances catholiques. Afin d'éviter une intervention autrichienne, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte envoya un corps expéditionnaire français commandé par le général Oudinot avec mission de tenter un compromis entre le pape et les républicains romains. Finalement, sous la pression des catholiques de l'Assemblée française, Louis-Napoléon fit assiéger Rome par Oudinot, qui obligea les républicains à capituler le 3 juillet 1849. Mais le pape ne revint à Rome qu'en avril 1850 et il se montra désormais hostile à toute concession libérale. Donc ce fameux 9 juillet, jour de la célébration du couronnement de la statue, une foule nombreuse se pressait aux abords de l'église. Sur la place, des détachements de l'armée française, en uniforme de parade, avaient formé leur rang au son de la musique militaire. Ces lignes ne s'ouvraient que pour laisser passer passage à de hauts dignitaires, civils et religieux. Les militaires appartenaient au détachement des 32e et 36e régiments de ligne et du 13e léger. Tous portaient sur leur poitrine la médaille bénie dont le pape les avait décorés. Ils avaient à leur tête 60 généraux et supérieurs de l'armée d'Italie, et au milieu de tous, le général Oudinot, duc de Reggio, chef de l'expédition militaire de 1849. Pour cette fête, Notre-Dame des Victoires fut superbement décorée. Le portique était tendu de courtines d'or et de velours avec les insignes et les armoiries du pape, annonçant que la cérémonie était faite au nom du chef de l'Église. Les armes du cardinal Mattei, archiprêtre de la basilique vaticane, rappelaient que le don venait du chapitre de cette basilique, celle de Monseigneur Paca, attestait qu'il avait été choisi pour présider la cérémonie. Au centre, l'image de la Sainte Vierge se détachant sur l'azur, symbolisant l'objet et figure de la reine de la fête. À l'intérieur, il y avait partout des tentures, des tapisseries, des fleurs et des candélabres. Les armes du Saint-Père étaient présentes partout. Dans le chœur étaient reproduites les armes de l'Église romaine, la tiare avec les clés et la croix patriarcale. Dans la chapelle de la Sainte Vierge, un immense voile de gaze et d'or et d'argent protégeait l'autel et laissait voir cette inscription « Archi-confrérie universelle ». Dans les lustres d'or scintillaient des milliers de bougies. Sur une crédence richement décorée étaient disposées les couronnes dédiées à la Sainte Vierge et à l'enfant Jésus. Elles étaient composées de diamants offerts par le pape, de pierreries et émaux donnés par le cardinal secrétaire d'État et aussi des dons des chanoines de la basilique vaticane. Monseigneur Paca fut reçu par le curé de la paroisse, le père Desgenettes. Le maire et le conseil de fabrique à la porte de l'église. On le conduisit à la place qui lui avait été réservée. L'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, qui sera assassiné quelques années plus tard à Saint-Étienne-du-Mont, est installé sur son trône. Après l'évangile, un membre du chapitre de l'église métropolitaine monta en chaire et lut la lettre pastorale par laquelle l'archevêque proclamait les indulgences accordées par le pape et s'associait avec tout son clergé aux joies de ce beau jour. La messe terminée, les prélats se rendirent à une estrade élevée devant l'autel de Saint-Augustin. L'archevêque de Paris prit place au milieu d'eux. Monseigneur Paca, accompagné du père Desgenettes, traversa les rangs du clergé aligné au pied de l'autel, monta sur l'estrade, prononça à haute voix les oraisons du rituel, puis plaça successivement les couronnes sur les têtes de Marie et de Jésus, tandis que le chœur entonnait le « Regina Coeli ». Monseigneur Cibourg monta à son tour près de la statue qu'il encensa en entonnant l'hymne d'action de grâce. Les voûtes retentirent des chants sacrés du poème d'Ambroise et d'Augustin. Un dernier acte clôt la cérémonie. Le curé, les membres du conseil de fabrique, jurèrent solennellement entre les mains de Monseigneur Paca de garder précieusement les deux couronnes. Le maire promit lui aussi, sous la foi du serment, de veiller sur ce précieux dépôt. De plus, il s'unit au père Desgenettes pour offrir au nom de la ville, comme de la paroisse, un cierge richement orné. Ce cierge qui avait été déposé dans le chœur fut apporté et allumé par M. le curé. Un notaire impérial, constata dans un document authentique les détails principaux de la cérémonie et la prestation de serment comme il avait fait précédemment pour la donation des deux couronnes. Malheureusement, le serment que les religieux et laïcs avaient tenu, ils n'ont pas pu le tenir pour une raison majeure, c'est que la basilique fut pillée pendant la Commune en 1871. Le père des Jeunettes était déjà décédé et les couronnes furent volées et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Un dernier pape pour finir, plus contemporain, plus près de nous. Le nonce apostolique Angelo Roncalli vint à Notre-Dame des Victoires pour fêter le centenaire de la Congrégation du Saint-Esprit le 3 février 1952. À cette occasion, il signa le livre d'or. Monseigneur Roncalli devint Jean XXIII, puis et maintenant Saint Jean XXIII. Alors, pour terminer, une toute autre rubrique, je vais vous parler de l'érection de l'église Notre-Dame des Victoires en basilique mineure. Je vais tout simplement vous lire la lettre apostolique du pape Pie XI, intitulée « Bref de sa sainteté Pie XI pour perpétuelle mémoire ». Il existe à Paris une église dédiée au Dieu très bon et très grand, en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu sous le vocable de Notre-Dame des Victoires. La construction de cette église fut entreprise dès l'an 1629 grâce à la munificence du roi de France Louis XIII qui en prit les dépenses à sa charge. Mais les travaux ayant traîné en longueur n'en furent achevés qu'en l'an 1740. Elle fut enfin consacrée solennellement le 13 novembre de la même année. Confiée alors aux religieux de l'ordre de Saint-Augustin, elle fut enrichie d'œuvres d'art et non seulement d'ornements et de vases sacrés, mais encore de boiseries sculptées qui en décorent entièrement le chœur, ainsi que des tableaux d'une facture remarquable, œuvre d'un peintre français de grand talent qui en orne aujourd'hui magnifiquement les murs. À la fin du XVIIIe siècle, cette église subit les dommages et les profanations que les maîtres impitoyables de la République lors de la Révolution française infligeaient aux objets, si bien que les moines furent chassés de Notre-Dame des Victoires et l'église affectée à des usages profanes. Par la suite, elle fut rendue au culte et les archevêques de Paris y fondèrent une paroisse dont ils confièrent la charge à des prêtres séculiers. C'est dans la chapelle de cet édifice paroissial, dédié au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, que fut érigée la très célèbre archiconfrérie qui fonda le curé de Notre-Dame des Victoires en décembre 1836. Très nombreux sont les fidèles de tout rang et de toute classe qui ont donné leur nom à cette archiconfrérie ou aux confréries affiliées qui ont été érigées avec beaucoup de fruits non seulement à Paris et en France, mais dans toutes les parties du monde. Depuis l'établissement de l'archiconfrérie jusqu'à ce jour, tout le monde vient dans ce sanctuaire parisien pour y vénérer la statue de Notre-Dame des Victoires. Des foules innombrables de fidèles s'y rendent en pèlerinage et manifestent de jour en jour plus ouvertement une très grande dévotion envers la Mère de Dieu. Nous-mêmes, jadis, à l'aurore de notre sacerdoce, alors que nous accompagnions à Paris un ablégat du Saint-Siège, désireux de témoigner notre foi et notre vénération envers la Vierge Marie, honorée sous le vocable de Notre-Dame des Victoires, nous sommes allés pieusement rendre nos devoirs à son image dans cette église parisienne. C'est pourquoi nous remémorons tous ces souvenirs. Nous avons résolu avec empressement et de grand cœur d'accéder aux prières que nous a adressées le curé actuel de Notre-Dame des Victoires avec la très haute approbation de l'archevêque de Paris, Louis Dubois, cardinal de la Sainte Église romaine. Nous supplions instamment de vouloir élever à la dignité de basilique mineure cette église mémorable, sanctuaire de Marie. après donc avoir pris conseil de notre vénérable frère Antoine Vico, cardinal de la Sainte Église romaine, évêque de Porto et de Sainte-Rufine, préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, de notre propre mouvement, après exacte information et mûre délibération, en vertu de nos pleins pouvoirs apostoliques, par la présente lettre, nous conférons à perpétuité à l'Église et au sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, érigé dans la ville et le diocèse de Paris, le titre et la dignité de basilique mineure, avec tous les privilèges et les honneurs qui, d'après l'usage et les décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, appartiennent aux édifices sacrés favorisés de ce titre. Ainsi, nous décidons et nous attendons que la présente lettre soit et demeure ferme, valable et efficace à perpétuité, qu'elle produise et obtienne ses effets pleins et entiers, qu'elle reçoive le plus complet assentiment de tous ceux qu'elle concerne ou qu'elle pourra conserver dans l'avenir, qu'elle inspire les jugements et les sentences et que tout ce qui pourrait être tenté à l'encontre, sciemment ou non, par qui que ce soit et quelle que soit son autorité, soit dès maintenant nul et non avenu. Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du pécheur, le 12e jour de mars de l'année 1926, de notre pontificat, le 6e, signé Cardinal Gaspari, secrétaire d'État. Alors, je précise que Notre-Dame des Victoires est rattachée à la basilique de Sainte-Marie-Majeure à Rome. Pie XI, qui s'appelait l'abbé Achille Ratti, était secrétaire de Monseigneur Tedeschi et attaché à la bibliothèque ambroisienne de Milan, donc est venu concélébrer la messe à l'autel de la Sainte Vierge le 2 juillet 1893. C'est notamment bien notifié sur le livre d'or. La même année, en 1927, le pape proclama patronne des missions celle qu'il appelait l'étoile de son pontificat, Thérèse de l'Enfant Jésus. Et pour finir, le cardinal Vico, cité dans la lettre apostolique, est lui aussi venu à Notre-Dame des Victoires le 18 octobre 1919, après avoir consacré la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il a lui aussi apposé son signature dans le livre d'or. Je vous remercie pour votre écoute.